En ce début de congé de Toussaint, nous allons à présent nous intéresser à la mort. Vaste question, évidemment, parler de la mort, ça implique une approche à la fois scientifique et aussi philosophique ou spirituelle au sens large. Nicole Debarre et Nicolas Polocek sont allés à la rencontre de plusieurs témoins privilégiés, des scientifiques, médecins, neurologues, des gens pour qui les soins palliatifs où l'euthanasie sont des sujets de préoccupation quotidiens. Et puis également des représentants de l'un ou l'autre courant religieux ou philosophique aussi. Ce sont en tout cas des témoignages éclairés et éclairants. Voici Vivre la mort, c'est donc un reportage de Nicolas Polocek et Nicole Debarre.
Comme gamin, je crois que je devais avoir 8 ans, je ne sais plus très bien, mais c'est le moment où je me suis rendu compte que j'étais mortel. Alors que j'avais très peur de la mort, j'ai eu comme, comme un rêve, mais un rêve dont je me souviens encore aujourd'hui, où il y avait un cercle de feu, et je savais très bien que c'était la mort. Et de l'autre côté, il y avait un jeune garçon qui me ressemblait, un peu plus jeune, mais il me ressemblait. Et il m'a regardé, il m'a donné la main, il m'a dit « Viens, ça ne fait pas mal ». J'ai pris sa main, j'ai traversé le cercle de feu, je me suis réveillé, je n'ai plus jamais eu peur de la mort.
Un des premiers contacts avec la mort, c'est celle de mon grand-père. Je devais avoir 5-6 ans. Il habitait en face d'un cimetière. Le cimetière était sur la colline, juste en face de sa fenêtre. Il pointait du doigt le cimetière. Et c'était bien clair que pour lui, il aspirait à pouvoir mourir.
Les histoires classiques, c'est quelqu'un qui a un sentiment de bien-être, des visions de lumière, de décorporation, des souvenirs très détaillés qui changent aussi leur perception de la vie, de la mort. Il y a beaucoup de films, beaucoup de livres, mais malheureusement très peu d'intérêt ou d'études scientifiques.
La peur de tout ce qu'on ne maîtrise pas. Incertitude, finitude, solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et les gens qu'on aime vont mourir aussi. C'est l'apprentissage de toute une vie, c'est ce qu'on appelle la sagesse, hein. Savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.
J'ai pas peur de la mort, je crains la manière dont ça survient. Il y a des choses que je vois autour de moi dans les hôpitaux et je ne voudrais pas ça pour moi. Est-ce que mourir dans son sommeil est une belle mort? Je n'en sais rien. Personne ne peut nous dire si c'est bien. Mais apparemment, c'est quand même la moins violente. Mais on ne sait pas ce qui se passe les dernières secondes dans l'esprit. Mais je pense que ce serait bien de pouvoir partir en pleine conscience. Par contre, si je suis malade, j'espère qu'un collègue m'aidera si j'en ai besoin.
Nous avons un groupe de pratiquants ici qui apprend à accompagner les mourants, qui continue après la mort aussi. Donc on considère qu'il nous entend, qui peut à ce moment-là être guidé dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Mais ça n'est pas donné à tout le monde, parce que la plupart des gens qui meurent ici ne sont pas préparés. Donc on va surtout les accompagner dans le sens où on donne une présence, on donne beaucoup d'amour, on essaye de calmer la personne, de la rassurer. La présence auprès d'une personne mourante est très importante.
Le docteur Lossignol est chef de clinique. Il dirige les soins palliatifs et supportifs à l'Institut Jules Bordet.
Alors vous posez une question fondamentale. La raison de la mort est une question à la fois philosophique et scientifique. Ce phénomène qui interpelle l'humanité depuis toujours, à des degrés divers, certains considèrent que c'est un fait de la nature et donc à quoi bon s'inquiéter. D'autres considèrent que c'est épouvantable de décéder et donc la mort fait peur. D'autres considèrent qu'on peut reculer l'échéance et d'autres estimeront peut-être qu'on peut la supprimer, cette échéance. Donc on est dans une dynamique au niveau de l'humanité qui est extrêmement variable d'une personne à l'autre, en tout cas dans certaines conceptions philosophiques. Mais scientifiquement, la mort se définit par des éléments qui sont objectivables. Nous avons, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une programmation de la vie, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on sait aussi qu'on va mourir. Biologiquement, nos cellules vont à un certain moment arrêter de fonctionner. Certaines plus vite que d'autres, mais enfin, on sait qu'on a une espérance de vie qui est limitée dans le temps. Certains trouvent que c'est pas assez, d'autres trouvent que c'est trop, je n'en sais rien. Mais le processus de la mort, le diagnostic de la mort, repose sur différents éléments. Et c'est fondamental de rappeler qu'un médecin qui constate le décès de quelqu'un, quelqu'un décédé, c'est quelqu'un dont le cœur ne bat plus et qui ne respire plus.
C'est des personnes qui travaillent, des cliniciens, qui sont médecins, qui sont psychologues, qui sont kinés, mais aussi des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens. Et donc c'est juste de mettre ces différents mondes ensemble qui permet d'avancer dans un domaine extrêmement compliqué qui est l'étude de la conscience.
Stephen Lawrence est neurologue et professeur à l'Université de Liège. Ses nombreuses recherches l'ont conduit à étudier les mécanismes de la conscience en situation de coma ou de mort imminente.
Je pense qu'il faut faire la différence entre le scientifique qui est en moi, qui essaye de comprendre, et puis l'être humain et les grandes questions qu'on se pose. Et la mort, c'est quand même une frontière très difficile à franchir pour le scientifique. Et là, alors, ça devient le domaine de la philosophie ou de la religion, où on parle alors de croyances. Il ne faut pas trop d'arrogance scientifique quand on parle de ces grandes questions. Personne n'a compris. On a maintenant deux définitions. La mort classique, le cœur, les poumons s'arrêtent. C'est l'image de la mort qu'on connaît, hein, c'est le cadavre froid. Les technologies nouvelles ont fait qu'on a maintenant d'autres critères. C'est la mort cérébrale, c'est quand votre cerveau est mort. Même si votre cœur bat, hein, vous pouvez être mort, même si le corps a chaud. Et donc là, soyons très clairs, quand vous êtes en mort cérébrale, personne n'est revenu. Mais cela change en permanence. Personne n'avait prédit qu'on allait pouvoir, avec ces nouvelles machines de respirateur artificiel, créer cette nouvelle définition qu'on appelle maintenant mort cérébrale. Et donc, on ne sait pas ce que demain va offrir. Il y a déjà des firmes qui font une petite fortune avec la cryopréservation. On va payer pour être préservé à très basse température, tout le corps, ou si le budget est plus petit, juste la tête. On a des personnes qui payent pour que leur conscience, leur cerveau, soit transplanté, si vous voulez, sur un super ordinateur. On a déjà ces projets qui sont en cours. Là, à nouveau, je pense que ça illustre juste notre difficulté à accepter qu'on est mortel. Pour moi, c'est juste fascinant. Je pense que c'est l'une des grandes questions en science, hein, l'origine de la matière, comment elle devient vivante et aussi comment expliquer la conscience humaine.
Bambi, viens. L'herbe du printemps.
Si vous montrez Bambi à votre enfant, c'est là qu'il va apprendre la mort, hein, c'est-à-dire un coup de fusil qui évoque simplement ta mère, tu la reverras jamais. Et tu peux l'aimer tant que tu veux, ça n'y changera rien. On apprend par un simple coup de fusil que la mort est un définitif non-retour et que l'amour ne protège pas de la mort.
Bambi, vite, les fourrés.
Est psychopédagogue. Il est chercheur en pédagogie familiale et scolaire à l'Université de Mons.
La mort, c'est d'abord un mot pour moi, simplement. Et les mots, c'est ce qui va canaliser l'angoisse. Quand on veut éviter d'être angoissé, on nomme les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va générer énormément d'angoisse chez l'enfant, mais chez l'adulte aussi, quand on utilisera des périphrases autour de la mort. Une grand-mère qui s'est éteinte. Il faut savoir qu'un enfant n'a aucune connaissance et aucune notion des métaphores. Pour lui, si sa grand-mère s'est éteinte, c'est que sa grand-mère était une bougie. Si sa grand-mère est partie au ciel, elle va retomber. Si elle est partie faire un grand voyage, elle va revenir. Et donc, le principe, c'est de dire « mamie est morte ». C'est très dur, hein, et ça semble terriblement angoissant de l'entendre. Et pourtant, c'est ce qui va permettre de contenir l'angoisse. Le mot qui permet simplement de définir ce qu'est la mort, hein, un définitif non-retour. On sait que la mort existe, mais on en fait quelque chose de virtuel en utilisant notamment des mots qui évoquent Quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable, mais qui n'est pas quelque chose de l'ordre du permanent, du définitif. On ne montre pas les morts à nos enfants, par exemple. Alors que, en Mexique, par exemple, j'ai un collègue mexicain qui me dit toujours « je ne comprends pas ce que vous faites ». Vous ne montrez pas vos morts. Nous, on montre nos morts, non pas pour que les enfants n'aient plus peur de la mort. Les enfants mexicains ont peur de la mort, tout comme les enfants de nos pays, mais ils n'ont pas peur de la peur de la mort. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas angoissés par la mort. C'est la peur de la peur qui transforme la peur en angoisse. Si vous n'avez pas peur de vos peurs, si vous acceptez que ces peurs soient canalisées par des objets précis, c'est pour ça qu'on utilise les mots « j'ai peur que ma mère meure »,« j'ai peur que mon père meure », »,« j'ai peur que ma grand-mère meure », ça va canasser votre angoisse, simplement parce que vous aurez eu un mot et que vous aurez nommé votre peur. « J'ai peur que quelque chose arrive » ou « j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose », c'est ce que font souvent les adultes d'ailleurs, hein, quand ils parlent de la mort, « j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose ». Et ce n'est plus nommé comme étant un mort. Ce qui le montre très bien d'ailleurs, ce besoin de nommer la mort, c'est Voldemort. Voldemort chez Harry Potter, qui est celui dont on ne parle pas, mais qu'en fait on va citer en permanence, et qui n'est rien d'autre que la mort, sous son visage, je vais dire effrayant, c'est-à-dire non nommé.
Éric de Beculard est prêtre catholique. Il est vicaire épiscopal de Liège.
Il est difficile d'être prêtre sans parler de la mort et de parler de la vie. Le mot chrétien au centre de la foi chrétienne est le mot Pâques, ce qui signifie dans la langue du Christ, en hébreu, passage. Et une des convictions au cœur du christianisme, c'est que nous sommes de passage. Et je compare ça souvent, l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, il a tout. Et d'ailleurs, quand on est un peu déprimé, on veut retrouver la position du fœtus. Et pourtant, à 9 mois, il doit passer. Et il ne sait pas où il va. Vivre, c'est sans cesse passer d'un état à l'autre. De l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, si on a la chance, le grand âge. Et la mort, c'est le passage de cette vie dans l'espace et le temps, dans un corps biologique, vers une vie autre, dont nous savons aussi peu que l'enfant dans le ventre de sa mère sait de cette vie-ci. Mais voilà, nous avons, tout comme l'enfant dans le ventre de sa mère entend battre le cœur sans doute de sa maman, quand on a la chance d'avoir la foi, nous entendons battre le cœur de Dieu à travers la vie du Christ, à travers les paroles de l'Évangile, à travers tout ce que, en général, nous arrivons à construire ensemble quand on essaye vraiment de vivre intensément, de vivre spirituellement. Biologiquement, matériellement, nous n'avons que 2 certitudes. Nous sommes nés, on n'a pas demandé de naître, et on va mourir. Et ça, chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche de la tombe. Et tout enfant que l'on met au monde, biologiquement, on le condamne à mort. On sait tous que nous sommes tous mortels. Mais s'il n'y a que ça, c'est-à-dire je vis pour mourir, il y a quelque chose de très dur. La force de la spiritualité, qu'elle soit croyante ou même athée ou agnostique, parce que toute forme de spiritualité, c'est d'apprendre au contraire à quoi faut-il mourir pour être plus vivant. C'est-à-dire que chaque étape de la vie, si je la vis spirituellement, j'apprends à mourir, c'est-à-dire à renoncer à ce qui m'empêche d'être vivant pour être plus vivant. Comme prêtre, non seulement, évidemment, je parle de la vie après la mort, mais je parle aussi surtout de la vie avant la mort, c'est-à-dire c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à être vivant spirituellement. Quand je célèbre des funérailles, surtout de quelqu'un de jeune, je dis souvent, la quantité de nos jours, on n'en est pas maître. La qualité de nos jours, on n'en est pas tout à fait maître. La seule chose dont nous soyons vraiment responsables, c'est l'intensité de nos jours. C'est-à-dire, est-ce que je me laisse vivre comme un mort vivant, ou bien est-ce que chaque instant que je vis, j'essaye vraiment de vivre une certaine intensité. Donc, comme je le disais il y a un instant, de mourir à ce qui m'enchaîne pour être plus vivant spirituellement. Ça, nous en sommes maîtres et ça nous dit quelque chose, je crois, de ce qu'il y a de l'autre côté du passage.
Malgré toutes les avancées technologiques et thérapeutiques, la mort est parfois la solution pour des malades qui souffrent trop. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité est présidée par l'avocate Jacqueline Hermance.
Nous avons une loi, la loi du 28 mai 2002 qui dépénalise l'euthanasie. Nous avons également une loi qui consacre le principe de l'accès général aux soins palliatifs. Et enfin, une loi sur les droits du patient. Aujourd'hui, nous voyons que nous allons vers des décisions partagées. Que le patient, dûment informé, peut refuser un traitement. Et si nous allons vers la loi relative à l'euthanasie, l'autonomie, à ce moment-là, prend une toute autre dimension. C'est-à-dire que ce n'est plus le médecin qui propose un traitement et le patient qui peut l'accepter ou le refuser, mais il s'agit bien du patient lui-même qui formule la demande à son médecin d'être aidé à mettre fin à sa vie et au médecin à ce moment-là de prendre position. Va-t-il ou non accepter cette demande de la part de son patient? Si la chose est discutée, si la chose est décidée entre le médecin et le patient, je dirais qu'on peut arriver également à préparer sa mort, préparer ses adieux, ses au revoir à ses proches. Ce que l'on peut se rendre compte, c'est que les personnes qui formulent des demandes d'euthanasie n'ont pas peur de la mort. Ils y ont réfléchi. Ils ne sont pas non plus suicidaires. Ce sont des personnes qui, en général, aiment la vie, voudraient encore vivre, mais plus dans ces conditions-là. Et ils savent qu'il n'y aura pas d'amélioration. Ce sont ces personnes-là qui, en quelque sorte, ont fait la paix en ce qui concerne leur mort. Il leur reste alors à faire la paix en ce qui concerne leur mort avec leurs proches. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile. Ce n'est pas la personne qui demande l'euthanasie qui est en détresse à ce moment-là. Ce sont les proches qui vont devoir se séparer, qui vont devoir vivre cette séparation et qui vont devoir vivre leur deuil. Parfois, il se fait que dans une famille, dans toutes les familles, on a des histoires de famille. Mais que justement, une histoire de famille qui faisait que les relations étaient devenues difficiles, de par le fait que l'on sait que dans un mois, dans une semaine, le père, la mère, le frère ne sera plus là, ça vaut la peine parfois d'essayer de crever l'abcès et de régler des problèmes familiaux. Et cela, l'euthanasie le permet, parce que justement, on est en pleine conscience, on peut en parler encore. Mais en même temps, on sait qu'il y a une limite dans le temps, qu'il ne faut pas reporter ça à demain, à la semaine prochaine, à un mois. Non, il faut le faire maintenant. Il faut parler maintenant. Il faut être avec la personne maintenant. Et on serait surpris d'entendre les personnes qui sont en demande d'euthanasie dans les derniers jours qui précèdent l'acte. On serait surpris de les entendre. Avec quelle sérénité ils apportent cette question? Avec quel sourire éventuellement ils accueilleront le médecin qui doit pratiquer le geste? Et avec quel sourire aussi ils diront au revoir à leurs proches, à leurs amis, à leur famille?
Tous les vendredis matins, le docteur Lossignol reçoit des patients en demande d'euthanasie.
Je vois que vous avez la revue...
Oui, je viens pour chez le docteur Lossignol. C'est un choix.
Vous avez...
On a signé tous les papiers, etc.
Et vous, vous avez décidé...
Oui, c'est la troisième fois que je viens le voir. C'est parce que ma situation de santé s'est modifiée depuis mon dernier rendez-vous. Pas en mieux, ce qui fait que je viens vraiment voir ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire.
Et donc, vous avez envie de décider, vous, le jour où vous partirez?
Oui, certainement. Il n'est pas question pour moi d'être, comment dirais-je, comme un petit légume. Tant que j'ai ma tête et que je sais bouger, je suis d'accord de rester en vie avec les soins adéquats. Mais le jour où je suis grabataire, il n'en est pas question.
Vous avez une maladie qui va vous conduire à ça?
Oui, j'ai... un grave problème cardiaque. J'ai une sténose très sévère de l'aorte. D'après ce que j'ai compris, c'est une lourde opération, à moins qu'il y ait des nouvelles techniques. Mais de toute façon, j'ai passé 90 ans. Moi, je ne peux pas être une charge pour mes jeunes sœurs, qui n'étant plus toutes jeunes non plus. Donc c'est tout à fait normal de partir. Hein. Regardez, au Japon, quand les vieux atteignent un certain âge, on les conduit à la montagne et on les dépose dans la neige et ils s'endorment. C'est pas magnifique?
Pensez à quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Parlez bien à votre médecin traitant, expliquez bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce que vous souhaitez, et puis je pense. Et si votre médecin traitant souhaite des informations, ne pas hésiter. Non. De toute façon, je vais lui écrire par rapport à la.
Ok, ça va, merci, docteur.
Au revoir, madame. Le rôle de la médecine fondamentale, c'est de maintenir la santé ou de la restaurer. On ne peut pas empêcher la mort. On peut retarder son échéance, on ne peut pas l'empêcher. Et on le sait depuis Hippocrate. Peut-être que certains aimeraient bien qu'on ne meure plus, mais ça c'est une autre question. Aider un patient à mourir quand on sait qu'il va mourir et qu'on lui garantit une fin de vie confortable, ça n'est pas